Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, merci de nous être fidèles pour ce dimanche, donc coincé entre Noël et le jour de l'an. On vous avait promis en tout cas de rester en votre compagnie pour ces fêtes de fin d'année. On va tenir promesse, on va vous offrir dans ces deux dimanches, deux best-of avec donc Éric Boyer et Henri-Émile la semaine prochaine. Et puis ce dimanche, on va rendre un peu hommage à nos confrères de l'équipe qui étaient venus nous rendre visite tout au long de cette saison. Alors on retrouvera dans Tribune Foot entre 10h et 11h le leader de la rubrique foot, Vincent Duluc. Et puis, dans quelques minutes, on va faire un petit retour en arrière avec le rédacteur en chef de l'équipe, Étienne Bonamy, qui était dans nos studios le dimanche 30 septembre. Voilà, allez, place à Étienne Bonamy maintenant. Étienne, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu, j'allais dire, en voisin dans nos studios. On aime comme ça recevoir certains confrères de la presse écrite. Ça avait été le cas avec Gérard Lescours et Jean-Marie Laurent pour France Football, donc dans Tribune Foot la saison dernière. Et puis aussi avec votre ami Vincent Duluc, qui était venu au mois de juillet.
Qui est encore plus voisin de la radio.
Ah oui, tout près, lui, il peut venir à pied pratiquement. Très bien. Alors, Étienne, vous êtes, je l'ai dit, rédacteur en chef de l'équipe. Quand on s'appelle Étienne Bonamy, comment entre-t-on à l'équipe ?
Ah, comment entre-t-on à l'équipe ? D'abord, j'y suis depuis début 1992. Mm-hmm. Et avant d'être journaliste à l'équipe, j'ai été journaliste dans plusieurs magazines, pas seulement dans le sport.
D'accord.
J'ai travaillé au sport, le quotidien, vous voyez, qui voulait concurrencer l'équipe il y a 20 ans.
Quelques mois, quoi.
Un an. Fait 20 ans exactement cette année qu'il s'était lancé. J'ai travaillé dans un hebdomadaire qui s'appelait But, qui s'appelle toujours But. J'ai travaillé au service des sports du Figaro.
D'accord.
J'ai travaillé dans les Yvelines, même si je suis pas originaire de la région. J'ai travaillé à Saint-Germain-en-Laye au Courrier des Yvelines.
D'accord.
Et avant d'être dans le sport, puisque c'est là que j'ai commencé dans 80. En 80, oui. Mm-hmm. Avant, j'avais travaillé en presse de province et en radio. J'avais travaillé à la Nouvelle République du Centre-Ouest, c'est à Tours. Mm-hmm. Donc, et puis, j'ai travaillé à Ouest-France, j'ai travaillé en Normandie, dans des hebdos.
D'accord.
Là, j'ai même fait de la radio, vous voyez.
Ah très bien.
J'ai fait de la radio, mais il y a très très longtemps, il y a... Ouais. Bon là, ça fait vieux, il y a plus de 30 ans.
C'était pas la bande FM.
C'était pas la bande FM, mais c'était Radio Monte-Carlo, onde moyenne. Poste qui émettait sur le Moyen-Orient, voilà. Mm-hmm. Donc.
Très bien. C'était incontournable ce passage au sport. C'est devenu sur le sport, c'est une passion le sport.
C'est une passion le sport, alors quand j'ai fait une école de journalisme qui était celle de Tours, je me destinais pas du tout à aller dans le sport, même si j'aimais beaucoup ça. Et je travaillais dans les faits divers, dans les quotidiens régionaux. Je vous le disais là en Touraine et puis en Bretagne. Et puis en fait, j'avais même fait un peu de politique étrangère lorsque j'étais à RMC. Et ça s'est fait tout à fait fortuitement, parce que je jouais aussi au football et le club où je jouais en Normandie, et je travaillais dans un journal qui était en Normandie, un hebdo, et un jour le directeur de ce journal qui me voyait beaucoup jouer au football m'a dit voilà, on veut monter un cahier sport sur la région parisienne dans un hebdo qu'il possédait. Voilà, je voulais bouger un peu, c'est comme ça que ça s'est fait, mais j'aime bien le sport, c'est vraiment un domaine où je me sens à l'aise.
Très bien, bon, on va en parler tout au long de cette matinée, on va parler aussi naturellement de la Bible, du quotidien qui est l'équipe, qui est la référence pour tout le monde. Étienne, aujourd'hui, pour entrer à l'équipe, il faut passer par une école, on peut plus être pigiste, comme ça a été dans le passé.
On a des pigistes, mais
c'est dans l'air du temps.
Voilà. Il y a 30 ans, les écoles de journalisme étaient moins répandues qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et puis les gens pouvaient aussi s'intégrer dans les rédactions en ayant un autre parcours universitaire. Voilà, il y a beaucoup de gens ici chez nous qui ne sont pas passés par des écoles. Moi, je suis passé par une école, mais aujourd'hui, les jeunes qu'on prend dans ce qu'on appelle notre vivier, les équipiers qui travaillent, qui sont pigistes, qui viennent renforcer, sont tous passés par des écoles. Et on peut pas prendre tout le monde non plus, mais c'est valable aussi pour tous les autres médias, que ce soit la presse écrite, la radio, la télévision. La formation universitaire des journalistes est très nettement améliorée, beaucoup amplifiée. Et puis voilà, il n'y a plus la place. Il y a des journalistes qui entraient en allant servir le café, couper les dépêches. Et puis ils attendaient un an, deux ans, cinq ans. Et puis à un moment, il y avait une place. D'abord, ils apprenaient le métier sur le tas. Puis il y avait une place qui se libérait.
C'était bien, c'était pas bien?
C'était bien, et... oui, c'était bien. Moi, j'ai connu plein de gens qui ont débuté comme ça parce que il y avait un côté beaucoup plus ambiance et ambiance maison, qui fait que la personne qui, par exemple, moi, j'ai pas connu ça à l'équipe, mais j'ai connu ça dans d'autres journaux. On y était, on connaissait l'esprit maison.
Oui, oui.
À l'équipe, il y a beaucoup de gens, c'est encore un tiers à peu près des gens qui ont débuté ainsi. Et puis, bon, bah, les personnes qu'on embauche maintenant, bah, elles viennent souvent, on va les chercher dans d'autres journaux, voilà. Et ça ne nuit pas à l'ambiance, voilà. On évolue dans tous les métiers, et c'est la même chose. Hein.
Oui. Alors aujourd'hui, on passe plus facilement l'équipe au Monde ou à Libé que par le passé. Avant, c'était ce qu'on disait des sportifs qui devenaient journalistes, comme Marcel Ancène ou Gaston Meyer. Aujourd'hui, on est avant tout et d'abord journaliste.
Bah, exactement, moi j'ai toujours pas souffert, mais j'ai toujours trouvé assez injuste, on disait ouais, il y a les journalistes et les journalistes sportifs, ça a rien à voir, on a tous une carte de presse. J'ai beaucoup de confrères qui sont dans des magazines, enfin qui sont dans la presse écrite, qui sont à la télévision, qui ont débuté dans des rubriques sportives, qui sont aujourd'hui en infogéné, en politique, et inversement, voilà, on a des gens qui ont fait longtemps de la politique ou des infogéné ou de l'économie, qui sont passés. Voilà, être journaliste, c'est avoir une carte de presse et faire de l'information. Après, on vous dit un jour c'est du sport, le lendemain on vous dit, enfin le lendemain, deux ans après, vous allez faire de la politique. C'est la même chose, c'est de donner de l'information.
Oui, puis malheureusement, il peut y avoir des événements sportifs qui deviennent des événements tout court, comme le ZEL. Hein.
Exactement.
On se transforme carrément donc, un journaliste tout court, quoi. On sort du domaine du sport, là.
Voilà, je pense que les œillères qui faisaient, qu'on caricaturait le journalisme sportif, ou les journalistes qui travaillent dans les rubriques sportives, en pensant qu'ils n'avaient que le score du match de football, le résultat de l'étape du tour dans la tête, là, ils ont montré aussi qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup plus... une sensibilité beaucoup plus importante pour réagir sur l'actualité que la caricature qu'on en faisait.
Oui, on en parlait. Hors antenne, hein, c'est la meilleure école pratiquement. Hein. C'est celle de l'improvisation, du direct, de la sensation du public.
Ah bah, c'est-à-dire
on passe
que
partout, le reportage sportif.
Que ça soit, quel que soit le support du média, quand on travaille sur le sport, c'est l'immédiateté. Vous ne pouvez pas. J'ai suivi un peu de politique il y a très longtemps. Lorsque vous avez un conseil des ministres, vous attendez la fin du conseil des ministres.
Ouais, c'est ça.
Lorsque vous êtes au football ou à un tournoi de judo, toutes les 10 secondes, toutes les 5 minutes, il peut se passer quelque chose et vous êtes obligé de réagir. Même si vous avez un papier à écrire 2 heures plus tard, vous êtes obligé de réagir parce que vous savez pas ce qui va se passer. Un conseil de ministre, vous savez que sur le perron de l'Élysée, sur le perron de Matignon, pardon, bah, le porte-parole du gouvernement va venir vous lire une liste et puis vous poserez les questions après. C'est comme une conférence de presse. Et ben, dans le sport, c'est ça qui en fait l'intérêt, c'est que tout peut changer tout le temps. Donc, en effet, beaucoup de journalistes qui travaillaient dans le sport ont des postes de responsabilité dans différents médias.
Jérôme Bureau.
Exactement. Aujourd'hui, Jérôme a été très longtemps directeur de la rédaction de l'équipe et directeur de l'information de M6. Mais j'ai les confrères qui sont à l'Express, qui sont au Nouvel Obs, partout au monde. Et parce que c'est des gens qui ont été habitués à devoir réagir, à devoir s'adapter à toutes les situations beaucoup plus rapidement que certains autres confrères.
Vous êtes combien au total à l'équipe aujourd'hui? Parce que vous avez dû embaucher, hein, avec tous les produits dérivés, entre guillemets, et puis l'édition aussi du dimanche depuis 98.
Exactement. Ah bah, en pleine Coupe du Monde, c'était tant mieux. Hein. Pour la Coupe du Monde 98, il avait été décidé... ça, c'était un choix industriel du propriétaire du journal. Comme la Coupe du Monde, bah, c'est 7 jours sur 7, quasiment, de sortir 7 jours sur 7. En France, il y avait à cette époque-là peu de journaux. Maintenant, ça s'est fait. Peu de journaux qui sortaient le dimanche, à part beaucoup de quotidiens régionaux. Et donc, on était parti pour 6 sorties le dimanche. Voilà. Bon, on s'était dit, on pourra pas ne pas parler de la Coupe du Monde le dimanche si la France joue la veille ou si elle joue ce jour-là. Et puis, ça a été un tel succès qu'en pleine Coupe du Monde, la direction a dit, voilà, on continue. Et à ce moment-là, en 98, c'était déjà les premières négociations sur les 35 heures.
Oui.
Donc, il y avait un gros appel du pied du gouvernement pour que les grandes entreprises puissent donner le coup d'envoi de ça avec sans doute des aides et des primes. Je connais pas, mais sans doute des avantages fiscaux. Voilà, donc nous sommes passés entre le 1er juillet et le 31 juillet à... On continue tous les dimanches, ce qui n'est pas évident. Et puis, on embauchera beaucoup de monde parce que non seulement il faudra faire aussi le journal le dimanche, mais il faudra faire les 35 heures. Si bien que ça fait à peu près un appel de plus de 60-70 journalistes, pas tout au mois de juillet, mais dans les deux ans.
Voilà une entreprise qui a embauché pour les 35 heures.
Tant mieux. Ah oui, il y a eu beaucoup d'embauches. Donc là, on est autour de 260, 270 cartes de presse. Ça englobe la rédaction de l'équipe, magazine. Voilà, donc
Et puis des rédactions complètement autonomes aujourd'hui, hein. France Football est
France Football qui vient de fêter ses 60 ans. France Football au départ était un journal qui vivait avec des reporters qui faisaient à la fois le quotidien et le magazine, et puis depuis longtemps on a séparé, non pas pour une question de concurrence, mais il n'était pas possible que le même reporter, avec l'actualité, puisse parler, je sais pas, s'il est à Lyon un soir pour faire un match, le fasse pour le quotidien, puis une fois qu'il a terminé son article, continue de faire des articles pour l'hebdomadaire. Donc les deux rédactions, on est au même endroit, hein, pas dans le même immeuble, mais on est au même endroit, mais les deux rédactions se sont séparées.
Oui, puis en plus maintenant c'est un bi-hebdo.
Au moment de la Coupe du Monde aussi, vous voyez. La Coupe du Monde, en France, ça a fait beaucoup de choses.
Avec une nouvelle formule, hein, dont était venu nous parler Jean-Marie Laurent.
Exactement.
En janvier dernier. Donc aujourd'hui, il y a la télé, il y a donc la presse écrite, il y a le web, avec des rédactions complètement indépendantes. Vous travaillez en totale synergie, en totale symbiose ?
On travaille en synergie totale. On a un petit problème de logistique, puisque l'équipe s'est installée, qui a été longtemps donc, en plein cœur de Paris, comme beaucoup d'autres quotidiens Faubourg Montmartre. Il y a 20 ans, au mois de d'août 87, l'équipe s'était installée à Issy-les-Moulineaux, là aussi où se retrouvent beaucoup de médias maintenant. Et puis l'équipe a grandi, on a occupé tous les étages. Et quand la télévision et le web ont été lancés il y a 11 ans, c'était en 98, fin 98, il n'y avait pas de place pour qu'ils soient chez nous. Donc ils se sont installés à peu près un kilomètre de l'équipe, dans des locaux. Peut-être que tout le monde se regroupera lorsqu'on pourra déménager, mais pour l'instant, il y a des passerelles et puis de la marche à pied pour faire marcher les deux, mais ça fonctionne bien, même si ce ne sont pas les mêmes outils, mais il y a des émissions récurrentes sur la télévision où participent les reporters de l'équipe. Sur le web, il y a une rédaction. Le web, comme ça fonctionne tout le temps, il est difficile pour un reporter de l'équipe de pouvoir être disponible tout le temps sur le web. Mais en revanche, beaucoup d'informations maintenant, c'est ce que font aussi beaucoup de nos confrères. Nos informations exclusives. Avant, on croisait les doigts en se disant, on apprenait, un gros transfert ou l'affaire Armstrong. On apprenait ça, on se disait pourvu que ça tienne jusqu'à demain. Maintenant, on sait qu'on a le web, on met ça tout de suite sur le site internet, comme les sites sont le site de l'équipe et le site le plus regardé en France au niveau de la presse. Mais très largement devant ses concurrents. Donc ça fait boule de neige, c'est là que ça fonctionne. Puis ça va s'améliorer encore.
Oui, il n'y a plus cette barrière entre journaliste audiovisuel et puis presse écrite, comme c'était à un certain moment.
C'est-à-dire que nous, on a...
Il y a une vingtaine d'années, trentaine d'années.
Mais nous, on n'a jamais été élevé dedans, parce que je vous dis, la télévision s'est construite avec une autre rédaction. On essaye plutôt d'associer les talents, les compétences et surtout la présentation des événements. Pour les gens qui regardent l'équipe TV, on retrouve beaucoup de gens du quotidien qui vont dans des débats, qui vont dans des émissions. Après, techniquement, on peut sans doute faire mieux, ou plus longtemps, ou différemment. Mais tout ça s'améliore. Quand je vois ce que c'était au début, en 98, ça a gagné en synergie, et puis ça s'améliore de plus en plus.
Et puis, bientôt, une radio sur le web aussi, avec RTL.
RTL, c'est depuis quelques années, l'équipe a souvent été sollicitée, que ça soit par Europe 1, France Info, RTL, pour être partenaire sur des événements importants. Ça pouvait être, ça a été souvent les Jeux Olympiques, que ça soit d'été ou d'hiver. Et puis RTL était venu ponctuellement sur des opérations. Puis, comment ils nous ont proposé il y a quelques années de faire qu'on s'associe sur une émission qui a lieu le dimanche soir de 19h30 à 20h30. Alors ça varie un peu en ce moment, c'est 19h30, 20h avec le rugby. Voilà, c'est fait dans nos locaux à Issy-les-Moulineaux où là on balaye, c'est une sorte de stade 2 à la radio. Voilà, on a des invités au téléphone, notamment les gens qui ont fait l'actualité du week-end. Et puis on parle, il y a un représentant de l'équipe, j'y participe, c'est le directeur des rédactions Claude Droussan, le directeur de la rédaction de l'équipe Michel Delany. Voilà, on évoque l'actualité avec nos confrères d'RTL. Et puis de là, il y a eu des liens assez forts avec RTL et l'équipe. Ça fait un petit bout de temps que l'équipe, quand on a un journal, quand on a un site web, quand on a une télévision, ça faisait longtemps qu'on se disait, tiens, la radio, ça pourrait être un média sur lequel l'équipe existerait. Et puis les radios ne parlant que de sport ou donnant une grande place au sport. Il y a RMC Info qui l'a fait sur le sport. RTL le développe. Europe 1 le fait aussi. On voit beaucoup, ils ont beaucoup de temps d'antenne le soir sur le sport. Donc, les fréquences radio ne sont pas disponibles ou très difficiles à obtenir. Ouais. En revanche, se développe beaucoup le numérique. Donc voilà, le partenariat, et ça démarrera le 8 octobre, le partenariat avec RTL fait qu'on peut être sur le web, uniquement sur le web, je dis bien. Voilà, via l'équipe FR, via RTL.fr, à partir du 8 octobre, sur des programmes qui seront des débats faits avec nos confrères d'RTL.
Ouais. D'accord. Alors, il y a aussi, naturellement, les suppléments que vous faites, gratuits, en parallèle des grands événements, quand il y a un Tour de France, des Jeux Olympiques ou un Mondial de foot.
En 96, l'équipe a fêté ses 50 ans, que je dis. Oui, c'était les 50 ans de l'équipe créée en 1946. Et à cette occasion, 3-4 ans avant, il avait été prévu de raconter l'histoire de l'équipe à travers un livre, non pas réécrivant l'histoire, mais reprenant les
articles. Je l'ai, c'était fabuleux.
Et ça a été un très bel ouvrage, mais en plus, ça a été un succès. Je pense que c'est un des plus beaux succès d'édition retenu en France. Et de là, on s'est dit, enfin pas moi, mais la direction, s'est dit, si les gens sont aussi attachés au titre et à ce qu'il y ait de l'ouvrage sportif de qualité, voilà, on va continuer. Donc on l'a refait pour la Coupe du Monde 98, on a fait l'histoire de la Coupe du Monde, et comme on a un gros avantage à l'équipe, c'est que non seulement l'équipe existe depuis 46, mais avant c'était le journal Loto qui existait... depuis 1900, voilà, on a toute la mémoire,
les archives, tout quoi,
photos, papier. Ouais. Donc, vous imaginez ce dans quoi on peut piocher. Et donc, on a fait ces ouvrages-là. Ça a toujours été des succès. Et puis, petit à petit, on est passé sur le livre de l'année du football. Là, c'est bien qu'on a créé il y a quelques années un secteur édition qui développe. Beaucoup, qui est dirigé par Gérard Agenès, et qui est devenu une vraie maison d'édition avec le label L'Équipe, qui fait des ouvrages, qui a fait la grande histoire du rugby. On va sortir bientôt la grande histoire, et là, franchement, c'est un nouveau. Je l'ai vu parce qu'il vient d'être, il n'est pas encore mis en vente, l'histoire de la Coupe de France, qui est un ouvrage.
Ah, d'accord.
C'est fabuleux parce que il y a l'écriture, les photos. Encore une fois, on possédait ça dans nos archives, dans nos caves, mais à la limite, on ne pouvait pas l'exploiter autant qu'on voulait dans le quotidien ou dans l'équipe magazine ou dans France Football. Là, c'est un ouvrage remarquable qui va sortir bientôt. Donc, de ça, ça a marché. Et puis, l'équipe magazine avait été créée en 1980. Et ces suppléments-là, un peu comme font beaucoup de quotidiens, comme il y a eu le Figaro Magazine, etc., on s'est mis à faire aussi, à décliner l'équipe féminine. On procède par touche, on regarde si ça plaît aux gens, si ça plaît aussi, ne le cachons pas, si ça plaît au marché de la publicité. Voilà, donc on a fait l'équipe féminine, ça permet d'aller sur une cible qui vient regarder un peu l'équipe magazine, mais qui n'est pas toujours passionnée pour le prendre tout le temps. Voilà, ça a marché. On a fait l'équipe style, c'est la mode, voilà. Et puis on a aussi un journal du golf qui est un gratuit. Il y a Vélo Magazine qui existe depuis longtemps. Voilà, tout ceci.
Il y a le rugby aussi maintenant.
Il y a Rugby Hebdo qui s'est lancé il y a un an et demi dans la prévision de la Coupe du Monde. Voilà, et dans le phénomène rugby qui passionne les gens. qui sont installés là où est l'équipe aussi. Voilà, on touche un peu, on regarde, ça marche pas. On essaie de flairer un peu les tendances que les gens veulent.
Il y a eu des secteurs où ça n'a pas trop bien marché.
Ah, il y a eu des. Oui, il y a en 88, l'équipe avait lancé un hebdo qui s'appelait Course Auto, qui parce que bon, la voiture et la moto. Les sports mécaniques et sports, enfin automoto, il y a énormément d'hebdomadaires en France, donc des études et puis une sorte de sensation que ça pourrait marcher, donc il y a eu une rédaction qui a été lancée sur ce projet-là et ça a marché, mais c'était pas la réussite que la direction attendait. Ça a été arrêté au bout d'un an, je crois. Voilà. Donc, on parle de l'équipe féminine, il y avait déjà eu des projets qui avaient été lancés, qui n'avaient pas abouti directement en publication, qui n'avaient pas été continués dans la durée. Voilà. Donc, on a la chance. Que l'équipe est un journal qui marche bien.
Voilà. Sûr.
Donc on peut se permettre de tenter des choses et ce n'est qu'en tentant des choses que l'on sait que voilà quoi. D'abord ça témoigne de notre vitalité, ça donne aussi de l'expression aux gens qui ont des idées. On a encore des projets, tout n'est pas lancé, mais il y a des projets, des idées qui émergent et qui circulent. Voilà, c'est bien. Il faut vivre. Je veux dire, je connais assez de journaux où malheureusement pour les les difficultés économiques, les rédactions ratatinent sur seulement le quotidien, arrêtant des suppléments ou diminuant le travail sur le web. Et pour en parler souvent avec des confrères, c'est tellement pénible à vivre que je vais pas me plaindre que d'être dans une maison où au contraire, lorsqu'on a des idées, on essaye de les mener à bien parce qu'on sait qu'on a le souffle qui va avec.
Alors pourquoi il n'y a pas deux journaux, deux, trois quotidiens de sport en France? On est le seul pays pratiquement européen, gros.
Ah oui, j'ai participé donc il y a 20 ans, c'était le 12 septembre 87 au lancement de au lancement du sport
et avec beaucoup qui sont ensuite revenus.
Voilà,
à l'équipe, y compris des postes.
On doit être une vingtaine à l'équipe qui ont participé au lancement du sport. Il y en avait une petite dizaine, même pas, qui venait de l'équipe. Bon, il y avait déjà le trio de responsables, Jérôme Bureau, Gérard Agenès et Patrick Blin. Il y avait Didier Braun, il y avait Eric Métro, il y avait des secrétaires de rédaction. Il y avait des photographes qui avaient quitté l'équipe pour lancer ça. Pourquoi ça marche pas? D'abord, le poids de l'histoire de l'équipe est très important. En plus, en France, contrairement sans doute à quelques pays étrangers, le suivi du sport, peut-être pas dans la presse nationale, et je le regrette, mais au moins dans la presse régionale, est bien ancré. Voilà les quotidiens régionaux qui sont forts en France et qui couvrent bien tout le territoire, que ça soit Ouest-France, l'Alsace, la Provence, parlent beaucoup de sport.
Ouais, c'est vrai que les journaux pour ça, pour avoir le lundi les commentaires de match et puis les résultats.
Voilà.
Quoi.
Le sport est bien couvert par ces quotidiens-là. Et puis je pense qu'en France, on achète son journal, voilà. Je vois, pour y aller en Italie, en Angleterre. En Angleterre, il n'y a pas de quotidien national de sport, mais le sport fait partie des quotidiens nationaux, beaucoup. En Italie, il y a la Gazzetta, il y a Tutto Sport, il y a Corriere dello Sport, mais depuis la Coupe du Monde 90, les grands quotidiens ont fait aussi des gros cahiers sport, beaucoup de football mais dedans, mais on fait des cahiers sport, justement, ça a un peu nuit aux ventes des spécialistes, mais ils se sont renforcés. En Espagne, il y a des quotidiens, mais qui sont quasiment dévoués, soit à un club comme Marca, comme Mundo Deportivo, voilà, qui sont dévoués à un club ou au football. Voilà, en France, je vous dis, ayant vécu l'expérience, oui, on avait touché une part de gens nouveaux. Voilà, on n'avait pas beaucoup enlevé de lecteurs à l'équipe. On avait le journal tourné autour de 50-60 000 lecteurs, ce qui était insuffisant. Donc, on s'était aperçu que finalement, le réservoir de gens qui viennent ne lire que le sport, c'est-à-dire les gens qui viennent lire l'équipe, en plus d'un autre quotidien qu'ils achètent, eh ben, il n'était peut-être pas si extensible que ça. Donc, l'analyse qu'on s'est faite, nous, je pense que quelques capitaines d'entreprise disent la même chose, puisque depuis avant l'équipe et depuis avant le sport, pardon, et depuis le sport, personne n'est venu se mettre là-dessus.
Donc, oui. Le 13 juillet 98, qui reste la plus forte vente, le plus fort tirage.
Oui. Hein, le plus gros tirage et retirage, puisque le matin du 13 juillet 98, le journal, je crois, à 10h du matin, n'était plus disponible sur le territoire. Voilà. Il a fallu, alors, je vous laisse imaginer l'affolement des vendeurs de journaux qui ont demandé aussitôt, mais c'était déjà prévu, parce que techniquement, on ne pouvait pas imprimer, je crois qu'on avait imprimé un peu plus d'un million à Paris. Notre imprimerie est à côté de Roissy, mais aussi l'équipe, comme les grands quotidiens qui partent de Paris. Il y a 5 centres d'impression en France qui sont dans l'Ouest, le Sud-Ouest, le Sud-Est, la région Rhône-Alpes et l'Est. Tout ne part pas de Paris. Et bah, techniquement, on pouvait pas imprimer plus, parce qu'il n'y a pas que nous qui imprimions, il y avait aussi tout le monde qui imprimait ce dimanche soir. C'est bien qu'on a retiré dans la journée du lundi 13, on a retiré le journal, parce que les vendeurs de journaux nous avaient demandé, on le savait aussi, et en plus, il y avait des affichettes, j'avais vu ça en Rambouillé, mais il y avait des affichettes où les gens disaient le journal de lundi sera aussi vendu mardi. J'avais trouvé ça très drôle. Alors il y a plein de gens qui l'ont acheté collector, très bien. Il y a plein de gens qui étaient portés par la victoire et donc l'événement. Et on a vendu 1 600 000, ce qui est la plus grosse vente de presse quotidienne en France. Voilà. Parce que la plus grosse vente de l'équipe, non pas avant, mais qui était restée un peu légendaire, c'était le décès de Marcel Cerdan.
Ah oui.
Mais à ce moment-là, les quotidiens vendaient ce qu'on appelle en roulante. Donc, il y avait des éditions, pour les personnes qui s'en souviennent, par exemple, François l'a fait pendant longtemps, il y avait des éditions qui terminaient à 11h le soir, et puis il y avait une édition qui sortait à 6h du matin, et puis une autre qui sortait à 9h du matin. C'est bien que pour savoir la diffusion d'un journal et sa vente, on additionnait les 3-4, François le faisait avec le tiercé, la toute dernière et tout. Donc, ça avait dû faire 580 000 exemplaires pour la disparition de Marcel Cerdan, puisque d'ailleurs, c'est resté un journal assez incroyable à lire, puisque en fait, plus le journal sortait, plus les nouvelles avançaient. Avant, les grosses ventes, ça avait été la victoire de l'Olympique de Marseille.
Oui, 93, oui.
Voilà, 93.
Il y a eu la Coupe Davis aussi, je crois, non? La Coupe Davis.
La Coupe. Ah, oh, il y a eu.
Ça avait marché aussi.
La Coupe Davis en 91.
La première, en 91.
À Lyon, oui. Hélas, quand je dis hélas, la mort d'Ayrton Senna en 94. Et puis l'Euro 2000, ça a bien marché. La Coupe du Monde 2006 a bien marché, parce que sauf la finale. Enfin, quand je dis a bien marché, sauf la finale,
tirage,
au niveau tirage, dans le mois de Coupe du Monde, on vendait pratiquement autant qu'en 98. Alors, on aurait bien aimé que ça soit le même résultat.
Bien sûr.
Au moins la victoire, c'était pas le même match, mais que ça soit la même chose. Il y a un lien très fort des gens, forcément, puisque l'équipe vend en moyenne 370 000 exemplaires par jour. On vend plus en été.
Il y a tellement d'événements sportifs.
Et puis il y a des fois, le 25 décembre, on vend. Voilà, c'est pas ce jour-là qu'on vend le plus.
Non, c'est sûr.
Donc, mais dans cette moyenne-là, il y a un côté très fort, mais c'est lié aussi au sport, je veux dire. Il y a un côté très fort qui émotionnel avec le résultat, ou la réussite des Français, ou une grande déception, ou un grand événement. Donc, voilà, cette courbe-là, c'est un peu pas les montagnes russes, mais c'est des gros pics d'achat. Et on sait que les gens viennent nous voir là. Il y a plein d'histoires où je me rappelle en 2004 l'Euro, le premier match contre l'Angleterre, la France est menée à zéro. Et
Zizou,
Zidane, enfin, mes deux buts en trois minutes, quatre minutes dans le temps additionnel. Je pense que ce joueur-là, on est passé d'une vente de qui aurait été à peu près de 400 000. On a vendu 720 000 le lendemain. Pourquoi ? Parce qu'il est 22h30, tout le monde est devant sa télé. Et puis la télévision rend l'antenne. Et là, les gens disent, qu'est-ce qu'on va avoir de plus ? Ils savent qu'ils vont le trouver chez nous le lendemain.
Alors justement, est-ce que le fait qu'il y ait autant de matchs de retransmis sur la télé qu'aujourd'hui on connaisse tout d'un sportif, ça vous a donné une cible et un angle différent dans vos reportages ? Parce que beaucoup disent, l'équipe, c'est plus comme avant, quoi. Je veux dire, au niveau des résumés des matchs, les gens connaissent tout des matchs aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant, quoi.
Mais alors, il y a une chose. D'abord, le sport, le traitement du sport a bénéficié, notamment à l'équipe, a bénéficié de l'exposition du sport en général à la télévision. Voilà, l'augmentation des ventes de l'équipe de façon très très sensible coïncide avec le début des années 90. Et à ce moment-là, c'est Canal+. Bon, c'était beaucoup de football. Donc, on ne va pas commencer à dire que la télévision nous nuit, puisque plus il y avait de matchs de foot à la télévision, plus les gens... d'abord, ça élargit le nombre de personnes... Avant 98, ça a élargi le nombre de personnes qui s'intéressaient au foot, ou du moins qui en entendaient parler, ou qui voyaient, parce que je me rappelle des années où, pour suivre Saint-Etienne, il fallait écouter la radio, et voilà. Et
le match n'était pas diffusé.
Non. Mais j'étais au stade, donc je l'ai vu.
Oui, mais nous, on l'a pas vu à la télé.
Mais les gens avaient l'oreille l'oreille au poste. Donc là, le fait qu'on voit plus d'images, quel que soit le sport, ça a amené aussi plus de lecteurs chez nous, parce que les gens veulent qu'on leur explique ce qui s'est passé. Et après, en effet, aujourd'hui, franchement, je pense pas que les gens qui lisent l'équipe ce matin ignoraient, pour leur grande majorité, le résultat du rugby d'hier, la victoire de Lyon sur Lens, etc. Ce dont on est obligé, quand on dit on est obligé, notre devoir, c'est de leur expliquer ça. Parce que la télévision, pour l'instant... n'est que dans l'immédiat. Hier, j'ai regardé les matchs de rugby, j'ai regardé Lyon, et quand Lyon, ça se termine, on a le micro qui est tendu à l'entraîneur de Lyon, à deux joueurs de Lens, à Jean-Pierre Papin, l'entraîneur Lens. Voilà, on n'a pas l'analyse, et on sait très bien...
Des fois, on vend son produit un peu mieux que ce qu'il est, quoi. Des fois, on essaie de faire croire à la télé que les matchs sont moyens, alors qu'à l'équipe, on peut avoir ce recul.
Je vais donner un exemple. Il y a un gros débat, et d'ailleurs que nous relayons ou que nous initions selon les moments, sur le niveau de jeu de la Ligue 1 en France. Moi, je serais pas aussi enthousiaste que les confrères de Canal+, ou de la Coupe de la Ligue et les confrères France Télévisions. Mais d'un autre côté, je pense que les gens, ils regardent ça. Et beaucoup de téléspectateurs sont capables, ou de spectateurs dans les stades, sont capables de se faire leur propre idée, et ils veulent la confronter avec une autre idée, ou un autre point de vue. Et c'est ce qu'on leur apporte. Et quand on se dit, tiens, la télévision, quand Toulouse, Metz, Sochaux, c'est pas génial, même Lyon, ils jouent moins bien. Je comprends que la télévision peut se dire, oh là là, les gens vont venir moins nous regarder, ça va être moins intéressant et tout. Au mois d'août, sur deux soirées de deux lendemains de Ligue 1, on a vendu plus de 500 000 exemplaires. Donc ça prouve bien que les gens, quelque part, ils peuvent ne pas être d'accord avec nous. Et dans le passé, très souvent, il est arrivé que ce qu'on écrivait n'était pas l'avis des gens. Il n'empêche que le lendemain, moi-même, sur d'autres sujets que le sport, j'achète des journaux, je peux ne pas être de l'avis ou être en désaccord avec le commentaire qu'écrit le journaliste. Mais voilà, j'ai un point de vue qui me fait réfléchir. Je me dis, il a tort. Je me dis, il a raison. Ah, j'avais pas pensé à ça. Et ce que nous, on apporte en commentaire, je pense que c'est pas que ça soit indispensable, mais c'est vraiment un plus qui fait qu'on se battra pas dans les années à venir pour avoir les résultats plus tôt. On a un site web qui peut donner les résultats.
Oui, c'est pour ça. Maintenant, il y a l'internet,
franchement,
il y a le web.
Alors évidemment,
on angle un peu différemment, quoi, fatalement.
Comme vous le dites, on a ce retour de gens qui disent, on n'a plus les résultats. Voilà. J'ai vu ça, l'évolution sur ces dernières années. On n'enlève pas des résultats. Mais il y a 25 ans, 30 ans, l'équipe donnait les résultats peut-être de la Gambardella, des premiers tours de Gambardella en athlétisme. On donnait le résultat du championnat de France cadet de cross. Je pense pas que ça soit un moins pour l'équipe aujourd'hui de ne pas avoir le championnat de France cadet de cross, car le championnat de France cadet de cross, tous les gens qui suivent ça, ils l'avaient déjà bien avant de le lire dans l'équipe. Mais ils étaient peut-être rassurés de le retrouver. Ce que je préfère, c'est qu'on donne ce que tout le monde ne peut pas avoir, c'est-à-dire que l'équipe n'est pas chargée de parler de tout ce qui se passe dans le sport en France. Voilà, ce matin, il y a sans doute un championnat d'anciens à Rambouillet. Les gens qui veulent le savoir, ils auront le Parisien, et avant même de lire le Parisien ou les nouvelles dans la semaine, ils vont avoir eu le coup de téléphone ce midi de la personne qui va dire on a gagné 3-1 et tout. Voilà. L'équipe, c'est toujours concentré pour dire, voilà, il y a une élite du sport, il y a le sport de haut niveau, où tout le monde ne peut pas avoir l'accès à l'information. Nous, notre souci, c'est de l'avoir. Ce matin, c'est terminé le Grand Prix de Formule 1, on a 3 envoyés spéciaux au Japon. Voilà. Il y a peu de journaux, peu de journaux français, peut-être même à part nous et quelques journaux spécialisés, qui sont, voilà. Ce qu'on va apporter demain, c'est pas le résultat seulement. Tout le monde le connaît, les gens qui sont levés tôt pour le regarder l'ont vu. Ce qu'on va apporter, c'est le décryptage, parce qu'on va passer du temps peut-être avec les gens de chez Renault qui vont nous expliquer comment ils peuvent être deuxième. Peut-être qu'on va avoir une interview d'Alonso qui va pester parce qu'il a abandonné. Hamilton, voilà. C'est notre mission pour ça. C'est la mission de l'équipe. Je pense que les gens comprennent aujourd'hui que le résultat, voilà, l'information, elle est partout. Et que si demain on se contentait de faire des pages de résultats en disant, voyez, on vous a tout donné, même le CFA2 et tout ça, voilà, je pense qu'on perdrait beaucoup de gens. Et même les gens viendraient nous dire, mais bon, c'est bien, vous avez le résultat, mais je l'ai entendu hier soir à la radio, ou alors on me l'a téléphoné, mais dites-moi comment ça s'est passé. Tant qu'on se concentrera pour expliquer aux gens comment ça s'est passé, ce qui se sait et ce que eux ne savent pas encore, voilà, on aura raison.
Étienne, qui décide des unes? Il y a un comité, parce qu'il y a 200 unes qui sont faites sur le foot à peu près, à l'année, à peu près.
À peu près, oui.
À peu près 200. Qui décide des unes?
Celle de ce matin, c'est moi hier.
D'accord, voilà. Carrément. C'est-à-dire, on va cibler sur le foot ou sur le rugby.
Alors,
en priorité par rapport aux petits. Des fois, il y a même sur 2-3 événements en même temps.
Bon, celle de ce matin n'était pas très difficile à faire.
Oui.
Pas difficile. le match de rugby, c'est après. Les deux matchs. La difficulté, c'est de dire, voilà, on vous parle de France-Géorgie, mais attention, l'Argentine-Irlande, c'est celui qui va décider du sort de la France. Parce que la France peut battre, et je le souhaite, la Géorgie avec le point de bonus. Mais derrière, il y a un match, c'est assez bizarre dans le programme, mais il y a un match derrière qui... Voilà. Donc le but, c'est de dire aux gens, il y a ça. Et en même temps, il y avait du foot, et en même temps, hier, quand nous avons une réunion de rédaction tous les jours, même deux réunions de rédaction avec les responsables des autres services, on discute, et puis on arrive à juger ce qui est le plus important, ce qui est prioritaire.
Il y a des choix, des fois, il y a des événements, des fois, qui doivent... Bon, là, le rugby sort du lot, aujourd'hui, il
n'y a pas photo. Le rugby sort du lot, mais...
Il n'y a pas photo, mais il y a quand même la Formule 1, il y a le mondial de vélo,
Exactement, je vais vous dire comment a été faite celle d'hier. La Formule 1, on ne pouvait pas en parler. Pour la bonne raison que c'est dans la nuit, et que, franchement, si on avait fait un grand titre, qui va gagner le Grand Prix de Formule 1? Pour les personnes qui vont acheter le journal maintenant, elles connaissent le résultat. Donc la Formule 1, on l'avait enlevée. Le rugby, la Coupe du Monde est suffisamment populaire en France, même si tout le monde ne connaît pas le jeu de rugby, mais voilà. Donc ça s'imposait de présenter et l'enjeu. Après, on a été un petit peu chanceux, puisqu'il n'y avait pas de journée de championnat. Il y avait Lyon. Il y avait Lyon. Le fait que Lyon gagne, bon, ça le remet en tête et ça évite sans doute aux Lyonnais un crépage de chignon s'ils avaient perdu. Après, il y avait des championnats du monde d'escrime. Si une Française avait été, on a demandé à Annelies Louya au SAP, si elle avait été championne du monde, faut parler de ça. Il y a les championnats du monde de cyclisme qui ont lieu cet après-midi. Il y a du tennis avec Gasquet qui est en finale, et quand on sait tout ce qui lui est arrivé au mois d'août, voilà, il faut en parler. Vous voyez, on avait tout ça. Donc, il y avait du basket qui a repris, il y avait du handball aussi. Donc, de tous ces événements, on essaye de faire une hiérarchie en discutant avec les autres chefs de service. Et puis, c'est au niveau de la rédaction en chef qu'on tranche. Alors, en effet, le football, je l'apprendrai à personne, le football occupe à peu près 33-35% de la pagination du journal, mais il fait à peu près 70% des unes. Les grands sports dont on sait que non pas les gens raffolent, mais qui ont le plus d'audience. Bon, j'inventerai rien, mais c'est bon. Il y a le rugby, il y a la Formule 1, il y a le tennis. Qu'est-ce qu'il y a comment ça, l'athlétisme, le cyclisme, la natation avec Laure Manaudou. On mettra moins de lutte et d'haltérophilie à la une.
Quoi qu'il y ait eu des huttes sur l'aviron une fois. Hein.
On ne s'interdit rien. On ne s'interdit rien parce que je me rappelle le jour où l'équipe de France c'était en 99. L'équipe de France de bobsleigh à 4 a été championne du monde en Italie. Voilà. On avait fait la une dessus et on était revenu, on avait fait une page entière. Et on avait reçu des tas de coups de téléphone parce que il y a un lien très fort entre les lecteurs et maintenant les internautes, les journaux. Et les gens avaient dit, mais c'est génial que vous ayez fait ça, vous avez osé. Mais c'est pas une question d'oser. Il faut sentir un moment ce qui est domaine de l'exceptionnel. La France qui est championne du monde de bobsleigh, ça peut, là, peut-être que pour les auditeurs, ça peut paraître ridicule. Ici, on est en pleine, voilà. Mais c'est un événement hors norme, voilà. Mm-hmm. Mais on le fait une fois. Mm-hmm. On n'est pas là pour entretenir. Le football, on est là. On n'a pas besoin de dire aux gens, Lyon, c'est extraordinaire, donc on va le mettre à l'œil. Les gens savent. Voilà, les gens savent ce que vaut Lyon, ce que vaut Barcelone, ce que vaut Arsène Wenger, etc. Ou le Brésil en football. Il n'y a pas besoin de le survendre. Mm-hmm. Le reste, si on n'explique pas aux gens, si on n'a pas ces coups de cœur, comme font beaucoup de quotidiens, voilà, on n'est pas obligé de suivre l'actualité puis de saupoudrer un petit peu tout le temps et de dire aux gens, on vous a mis 15 trucs à la une, c'est le marché, vous choisissez. Non, on fait ses choix. Les choix sont souvent avec l'actualité, mais avec une forte, une forte dominante. C'est le rugby aujourd'hui. Demain, je pense que ça sera le rugby, même sûrement le rugby. Oui. Je ne sais pas ce qui peut se passer dans la journée, mais et puis par moment, hop, quand on peut passer, ou s'il y a une autre grosse actualité, voilà, faut que ça soit vivant, faut que ça soit. Le sport, c'est de la surprise. On en parlait tout à l'heure en disant rien n'est jamais acquis. On est toujours surpris au début d'une journée, nous, par l'actualité qui peut se passer, en espérant qu'elle soit la plus heureuse possible. Faut que ça se traduise dans le journal, dans le rythme qu'on va donner au journal, dans l'importance qu'on va donner au papier. La semaine dernière, on a fait deux fois la DER du journal par le canoë. Voilà, on était sur le quotidien qui était à Iguaçu au Brésil. Bah, des Français qui gagnent, voilà, c'était quelque chose de bien. On a quand je dis la richesse, c'est-à-dire le personnel, les moyens pour y aller, mais aussi la place et l'envie de donner des éclairages. Et je pense que j'en parle souvent avec des confrères étrangers, où eux sont assez monosports. On parlait de l'Italie, très très football, l'Espagne très football, même si l'Espagne le basket est important aujourd'hui dans la pagination. Voilà, bah, ils sont toujours étonnés. De voir, mais l'équipe, d'un seul coup, vous pouvez parler beaucoup de rugby, puis de tennis, et puis vous allez nous faire un grand papier sur Roger Federer, tout ça. Mm-hmm. Et oui, nous, le sport, c'est pas cocarde française, et on ne parle que de ça, et les autres n'existent pas, et puis toujours la même chose. Sinon, les gens, je pense que le but, c'est de chaque jour de parler de l'information sportive, mais aussi de susciter de la surprise dedans, voilà. Pour que les gens se disent de quoi on va me parler. Je sais que aujourd'hui quelqu'un qui achète l'équipe avant d'entrer dans son magasin à Rambouillet, dans son dépôt de presse, il sait qu'il y a du foot dedans, il sait qu'il y a de l'automobile, il sait qu'il y a qu'il y a du rugby. Mais s'il devine que c'est toujours la même chose qu'ils nous font, voilà, c'est mort. Mais s'il se dit qu'est-ce qu'ils vont m'avoir trouvé aujourd'hui en plus? C'est gagné.
En 98, vis-à-vis d'Aimé Jacquet, comment vous êtes situé dans cette mini polémique avec Aimé Jacquet?
Énorme polémique.
Vous étiez parmi ceux qui...
Ah oui, mais moi je maintiens...
Vous étiez sur la longueur d'onde avec Jérôme Bureau.
Alors je dis pas...
Parce qu'il y a dû y avoir des débats quand même, c'est pour ça que j'ai
dit sur
une équipe qu'il y a dû y avoir quand même des...
Bien sûr, moi je ne renie rien de ce qu'on a écrit sur le style de jeu de l'équipe d'Aimé Jacquet.
Très dur quand même.
Mais alors justement, il y a jamais eu de propos, et je défie parce que voilà, il y a jamais eu de propos.
L'homme de la situation.
Non, non, mais qu'il y ait eu des propos pour dire, il a été écrit qu'on ne voyait pas comment Aimé Jacquet pourrait amener l'équipe de France à la. Au titre champion qu'on avait sans doute, c'est même Gérard Régnès qui l'a écrit au début de l'année 98, c'était au moment de l'inauguration du Stade de France, voilà, qu'on avait sans doute le meilleur joueur du monde, Zinedine Zidane, qu'on avait sans doute l'équipe qu'il fallait pour gagner la Coupe du Monde, mais que pour nous, Aimé Jacquet n'était pas l'homme de la situation. J'ai lu et entendu des critiques beaucoup plus méchantes sur la situation, sur Aimé Jacquet. Que ce genre de propos, il nous a été reproché et souvent par des confrères qui ont écrit des trucs horribles sur Aimé, qu'on s'était attaqué à sa famille, c'est faux. Alors je le défie. Non seulement c'est faux, mais en plus c'est inutile parce qu'on est resté sur un débat où nous étions, encore une fois, parce que l'équipe est le seul quotidien, leader d'opinion en disant aux gens, voilà, on fait ci, on écrit ci. Donc beaucoup, on a eu beaucoup de gens qui nous ont suivis, qui ont tourné Kazakh aussitôt. Oui, on s'est trompé sur l'importance que pouvait avoir Aimé Jacquet là-dedans. Voilà, on l'a assumé. Je pense j'aimerais bien que tous les gens qui font de l'opinion et du commentaire et de l'information quand ils se trompent aient autant d'honnêteté pour le reconnaître ensuite. Voilà, j'ai pas entendu beaucoup de personnes dire après tout ce qui a été écrit sur Raymond Domenech et qui a été beaucoup plus méchant que ce qui a été écrit sur Aimé Jacquet, notamment sur le fait que sur sa vie privée, sa compagne et tout, sur les aides qu'il avait. J'ai pas vu beaucoup de gens s'excuser après quand l'équipe de France est allée en finale de la Coupe du Monde. Moi, ce qui m'a choqué, c'était cette espèce d'alali sur l'équipe, le public. Franchement, les gens, ils aiment pas, c'est pas grave. Vous savez, très souvent, les gens trouvent que c'est très bien. On a reçu, je parle pas seulement de 98, que ce qu'on fait est bien, que ce qu'on fait n'est pas bien. Voilà, ça fait partie. Quand vous donnez votre opinion, vous n'êtes pas obligé, sinon ça s'appelle la dictature, de penser que tout le monde doit l'écouter et que tout le monde doit avoir raison avec vous. Moi, ce qui m'a choqué, c'était beaucoup les réactions de beaucoup de confrères qui offrent. Me disait, mais vous avez raison, et qui comprend, on peut pas faire autrement, parce qu'il faut suivre, ça, c'est du populisme derrière. J'ai lu, et moi j'en ai parlé avec des gens, et notamment de la fédération, et des gens de l'équipe de France, ce que j'ai lu après, pas sur nous, mais depuis 98, sur Aimé Jacquet, j'ai vu des trucs d'une méchanceté sur le jeu et tout. Franchement, on n'a pas écrit le dixième. Avant la Coupe du Monde 98, j'ai entendu la dernière fois Pascal Praud sur le débat des LCI, ouais, disant si la L1 est mauvaise aujourd'hui, c'est la faute du football de Jacquet en 98. En tant qu'amateur de football, j'espère que la France, ça n'a pas été le plus beau football qu'on ait vu en 98, oui, par rapport à
en 2000,
c'était beaucoup mieux. Mais en 98, je pense que, vous voyez, aujourd'hui, tout le monde revivrait, on le voit avec le rugby, tout le monde s'enthousiasmerait si on voyait du football vainqueur avec des clubs français ou avec l'équipe de France. Donc, il y a eu un phénomène comme une sorte d'euphorie derrière les Bleus, il y a eu une sorte de défoulement anti-équipe, voilà, peut-être congéné parce que on prend des positions. Clairement, oui, la position qu'on a prise n'était pas la bonne. Voilà, on n'a jamais demandé d'aller brûler la maison de qui que ce soit, de s'en prendre à qui que ce soit, ou d'insulter qui que ce soit. Voilà. C'est la meilleure... ça va peut-être choquer les gens, c'est la période où on a le plus vendu de journaux. Tant mieux. Si vraiment il y avait eu un mouvement anti-l'équipe, en pensant qu'on était... bon à jeter aux chiens, je pense pas qu'on aurait continué à vendre, parce que entre 98 puis 99 puis 2000, les ventes ont continué de monter. Je pense que les gens ont trouvé énormément de il y a du débat dedans. L'équipe, c'est pas un journal de fédération qui reproduit des procès-verbaux de match et qui donne ouvrez des guillemets, comme j'entends beaucoup de radios, ouvrez des guillemets, la personne a son point de vue, on est d'accord, hop, on coupe et on discute pas. Nous, voilà, on donne du commentaire et on incite beaucoup les rédacteurs à avoir du commentaire sur le foot, sur le rugby, sur le badminton, sur l'auto. Voilà, on veut pas que le journal soit neutre. Voilà. Mm-hmm. Sans doute qu'on a mis le curseur trop loin. Voilà. Oui.
Alors, vous nous montrez aussi sur certains gros flots du sport, comme le dopage. Vous avez donc révélé l'affaire Armstrong. Contre votre société mère, quand même. Hein.
C'est pas contre elle. C'est
qui a gagné la Coupe de France. Non, mais je veux dire, ça doit pas être une position facile à prendre. Alors, réellement, le fait de l'avoir fait au mois d'août 2005 après Armstrong, c'était réel, quoi. C'était...
Ah bah oui.
On n'aurait pas pu la sortir avant. S'il avait fallu la sortir avant, en plein Tour de France.
On l'aurait sorti. Ouais. Bah alors, je vais vous dire, la personne qui s'occupe du dopage chez nous, Damien Recio, il travaillait depuis le mois de février. Au mois de février, il est venu voir en disant, il ne savait pas que c'était Armstrong au mois de février. Voilà, les informations que j'ai. Ils ont trouvé des échantillons de 99. Rapidement, les laboratoires souvent congèlent à des fins d'expertise, congèlent des échantillons d'urine pour pouvoir, ça leur permet de continuer les tests et tout. Comment il l'a su? Il me l'a pas dit et c'est son secret. Il a su que des échantillons de 99, lorsqu'ils ont été étudiés, il y en avait plusieurs, il n'y avait pas celui d'Armstrong. Hein. Voilà, il y avait de l'EPO dedans. Sur un échantillon de dopage, il n'y a pas marqué Lance Armstrong, Richard Virenc, Étienne Bellamy. Il y a marqué un numéro. Mm-hmm. Donc, à partir de là, il a enquêté, parce que vous comprenez bien que
sur le dopage, le
labo de Châtenay-Malabry, c'est même pas si c'est Lance Armstrong.
Ouais, voilà.
Eux, ils ont le numéro AB0198. Mm-hmm. Voilà, on lui l'a donné et il rend à la fédération qui compare, elle qui a fait la fédération ou les organisateurs de l'épreuve, qui ils ont les deux numéros. Ils disent, ah oui, ce numéro-là, c'est un tel. Ouais. Donc il a enquêté, ça a pris du temps. Au mois de mars, il était persuadé d'avoir les résultats, sauf qu'il voulait avoir. Il y a quatre composantes qui sont le laboratoire, la Fédération internationale, le Tour de France et. Je sais plus quel est l'autre. L'Agence mondiale antidopage. Ouais,
antidopage qui pose des problèmes à Jean-François Lamour.
Il voulait vérifier si sur les quatre, tout le monde était au courant. Ça a pris énormément de temps. Deux fois, trois fois, on a failli le sortir. Et je vais vous donner une info qui m'a toujours fait marrer, c'est que il est parti en vacances. Donc sur le tour, il reste pour le Tour de France en disant voilà, je vais l'avoir. Rien. Le soir du Tour de France, il dit bon, je l'aurai pas et voilà, c'est mort. On dit et il partait en vacances. Il partait en vacances le 3 août, je me rappelle. Il est parti en vacances le 3 août. Le 3 août, il arrive, je sais plus où, dans sa maison de location avec femme et enfant. Il reçoit un coup de téléphone de quelqu'un qui lui confirme le dernier. Il est revenu, sauf que on a commencé à travailler là-dessus. On a sorti le 22 ou le 23 août. Ouais. Et au moment où il le sortait, un jour, il me dit, est-ce que tu crois que le journal me rembourserait le dédit de ma location? Parce qu'en fait, il est reparti de sa location aussitôt. Franchement, on n'était pas là-dedans. Il me dit, parce que voilà, je suis arrivé en vacances une journée après, donc je suis reparti et les arts qu'il avait versés pour cette location de maison étaient morts. Alors je lui dis, écoute, je vais en parler à la direction de la rédaction, mais vu l'importance de l'information que tu sors, pour vous dire que si on avait pu le calculer, même si tenté, parfois on nous dit oui, mais vous marchez avec le Tour de France, vous sortez des infos, vous les sortez pas. Franchement, si on avait voulu sortir, on l'aurait sorti avant. Parce que ça aurait dégagé le Tour de France, et certainement pas après, où toutes les remarques des gens, vous le sortez après. Au moment où on le faisait, on s'est dit, les gens vont nous dire, vous le sortez après parce qu'il a arrêté sa carrière. Non. On l'a sorti pendant les championnats du monde de 2003, des informations. On avait des organisateurs qui disaient, mais vous voulez la fin des champions? On dit, non, mais le stade, il est plein. Nous, on demande, le journal se vend très bien. Franchement, notre but, c'est pas que le sport soit freiné par la lutte en dopage, c'est que le sport, ce que les gens voient, on leur dise, voilà, c'est propre, c'est sûr. Et s'il y a quelque chose qui se passe de pas bien, que ça soit la corruption, c'était l'affaire VRM, que ça soit le dopage, maintenant, voilà, on va vous le dire parce que on n'est pas des chevaliers blancs de quoi que ce soit, l'équipe. Mais on va vous dire, nous, on est là pour vous dire aussi bien pourquoi Juninho il est fort, on est là pour vous dire pourquoi Juninho il est pas bon, on est là pour vous dire pourquoi c'est super le Tour de France, ou pourquoi un tel il est fort quand il gagne, et aussi pourquoi cette étape-là elle est pas bonne parce qu'ils ont triché, ils sont dopés. Voilà. Si on commence à dire, ce domaine-là on n'en parle pas, mais celui-là on en parle un peu plus.
Oui, on n'est plus journaliste, quoi.
On n'est plus journaliste, puis les gens n'y croient plus. Voilà. Et si j'en y crois plus, là, je pense qu'un jour, mon directeur de la rédaction va me dire, mais ça se vend plus et c'est que quelque part, on ment aux gens.
Étienne, une petite minute avant le carillon de 10h, puis après on continuera. Vous dérangez des institutions, il y en a qui jouent moins le jeu que d'autres.
Ah oui.
Vous devez déranger quand même.
En
quelque part.
En
le CIO ou des fédérations.
Le CIO, On n'a pas des rapports. On a de bons rapports avec le CIO, mais on n'a pas des rapports de proximité. Oui, on se fâche. Il y a des fois, je reçois des coups de téléphone. Mais pourquoi vous sortez ça maintenant? Bah, on sort maintenant parce qu'on a l'info maintenant. Voilà. On travaille pas au service de communication des. Ouais, oui, ça arrive. Et pourquoi vous dites ça? Ou l'inverse. Vous pourriez pas annoncer. Voilà. On s'est un peu brouillé avec la Fédération française d'athlétisme pour des petits détails comme ça. Voilà. C'est la règle. Hein.
Effectivement, Étienne, c'est la règle. Merci en tout cas d'avoir été notre dernier invité de cette année 2007 pour Tribune Sport. On a été ravis de passer donc toute cette année 2007 avec vous. Bonne et heureuse année, bon réveillon de la Saint-Sylvestre. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et puis dans quelques secondes, hein, c'est aussi la dernière de Tribune Foot pour cette année 2007.